Bon, mais je regarde ça, là, on manquera pas de sujet encore aujourd'hui avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Il est en bout de ligne. Salut, Patrick.
Salut, LP.
D'abord, la situation en Alberta, Patrick, là, où même si 100% des chirurgies sont annulées, les hôpitaux sont débordés avec les cas de COVID, au point où les syndicats qui représentent les travailleurs de la santé demandent l'aide de l'armée carrément. Il y a des politiciens, Patrick, qui vont sûrement tirer des leçons de ce qui se passe là-bas.
Oui. Bon, regarde la situation, là, c'est extrêmement malheureux. Comme tu le dis, les soins de santé sont débordés. Bon, on se le cachera pas. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a, disons, les politiciens ont pris des décisions, on va dire populaires.
Ou populistes.
De laisser aller, ouais. Populistes, oui, effectivement, pour laisser aller certaines mesures sanitaires. Et malheureusement, ça leur éclabousse en plein visage. Là, on voit les répercussions de telles mesures qui ont été prises peut-être trop tôt. On avait peut-être trop d'espoir là, avec la vaccination qui n'était pas encore à 100%, on s'entend là-dessus. Mais là, c'est ça, c'est catastrophique. Donc, j'espère que les autres politiciens des autres provinces regardent ça, en tirent effectivement des leçons pour ne pas répéter une erreur comme celle-là là, qui s'avère grave. Là, on ne se le cachera pas.
Ouais, honnêtement, puis même la situation au Québec par rapport aux hôpitaux pour manque de personnel, tout ça, c'est un peu épeurant, Patrick.
Ben, c'est inquiétant, c'est sûr. Puis là, on le sait, encore une fois, là, les mois les plus importants au niveau de la transmission de n'importe quelle infection, là, avec l'automne et l'hiver qui s'en vient, faut être très, très, très prudent. Faudra pas baisser la garde. Même si on voudrait baisser la garde, les cas augmentent, les hospitalisations augmentent, puis on ne veut pas répéter justement une erreur comme celle-là. Donc, faut vraiment, vraiment garder les bonnes habitudes qu'on a prises. Surveiller ce qui se passe dans les lieux de travail, dans les écoles, dans les collèges et les universités pour limiter le plus possible la propagation de l'infection.
Ouais, on s'en sortira pas aussi vite qu'on espérait il y a à peine quelques mois, mais bon, puis on est juste le 20 septembre d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Deuxième sujet, Pfizer qui annonce aujourd'hui que son vaccin pour les 5 à 11 ans serait sécuritaire et efficace. Est-ce qu'on parle du même vaccin que pour les 12 ans et plus et les adultes, mais à plus petite dose, Patrick?
Oui, c'est exactement ça. C'est un tiers, dans le fond, de la dose. On parle de 10 microgrammes par rapport à ce que, moi, par exemple, j'ai reçu, c'était un 30 microgrammes. Donc, la dose est moindre. Là, on y va avec, la taille de l'individu. C'est comme un peu les antibiotiques. Là, on va y aller en fonction du poids et tout.
Oui.
Donc, les résultats préliminaires, puis on parle encore de résultats préliminaires, sont positifs. Donc, la réponse immunitaire est robuste. Elle est importante. Il n'y a pas d'effet secondaire majeur chez ces enfants-là. Donc,
et ça, je veux en parler parce que je pense que, puis je sais que les études se poursuivent aussi pour les moins de 5 ans, là. Il y a des gens qui s'inquiètent vraiment qu'il y ait davantage d'effets secondaires pour les jeunes enfants. C'est sûr qu'on regarde nos enfants, tu sais, ils sont tout petits, puis on se dit qu'ils sont plus vulnérables. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter ou pas du tout, Patrick?
Bien, je pense que c'est très légitime d'avoir des inquiétudes pour nos enfants. Mais les compagnies sont très conscientes de ça. Là, ça serait c'est catastrophique si jamais il y avait des répercussions vraiment négatives. Donc, on fait les choses correctement. On y va avec des petits groupes d'enfants. On vérifie les réponses. Ensuite, on va augmenter le nombre d'individus. Mais c'est sûr que, comment je pourrais dire, on veut vraiment faire les choses correctement. Oui, les parents ont le droit de s'inquiéter, mais je pense que la grande inquiétude pour moi, c'est pas mal plus le virus et ses variants, qui, eux, peuvent avoir des conséquences pas mal plus graves que ne pourrait en avoir le vaccin.
Et donc, ça, j'y reviendrai dans un instant, tout en étant conscient que, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. On l'a vu, là, il y a eu certains décès, mais quand ça va toucher un enfant, j'ai l'impression que ça va faire encore plus mal, là, émotivement, pour tout le monde. Là, disons que ça arrivait au Québec, là, ça serait extrêmement difficile, mais faut le répéter, là, en médecine, puis dans n'importe quel domaine, là, le risque zéro, effectivement, n'existe pas. D'ailleurs, en Israël, on a commencé à vacciner des jeunes de 5 à 11 ans depuis le 1er août. Ceux qui sont plus à risque de complications liées à la COVID, Patrick?
C'est exactement ça. Donc, c'est pas tous les enfants de ce groupe d'âge-là. Donc, vraiment ceux qui auraient des problèmes, par exemple, respiratoires, soit des cancers, des trucs comme ça. Donc, ces personnes-là, ces enfants-là, seraient beaucoup plus vulnérables à une infection. D'autant plus une infection respiratoire. Donc, ils ont obtenu une permission spéciale pour commencer à vacciner ces groupes d'enfants-là. Puis en même temps, ça va servir justement les compagnies pharmaceutiques pour aller chercher des données supplémentaires et vérifier justement l'efficacité puis la sécurité, l'innocuité du vaccin comme tel.
On n'a pas entendu d'histoire d'horreur pour des jeunes de 5 à 11 ans en provenance d'Israël depuis le début du mois d'août?
Non. Pour l'instant, tout semble positif. Donc, pour ça que moi, on se dit, on est inquiet par rapport à ce qui se passe là, en Alberta, on le disait au début de l'entrevue. Puis là, l'hiver s'en vient, mais il y a quand même des choses positives. Le vaccin résiste encore aux variants. La vaccination pour les enfants, bon, on va arriver. C'est sûr que l'année scolaire a déjà commencé, mais il y a des choses positives qui s'en viennent. Puis je veux pas que les gens perdent espoir et se disent, oh my God, on gagnera jamais cette bataille-là. C'est une longue bataille, mais on va finir par passer à travers. Il faut que les gens aient confiance.
Oui. Bon, parlons des enfants, justement, là, par rapport à la COVID. Là, on le sait, il y a moins d'hospitalisations et de décès, ça, c'est clair. Mais je lisais les propos d'un infectiologue pédiatrique de l'hôpital pour enfants de Montréal, Dr Caradios, qui dit, lui, avoir vu beaucoup de jeunes avec des problèmes inflammatoires causés par la COVID, qui ont ensuite causé des problèmes cardiaques dans la dernière année, donc dans la deuxième et la troisième vague. Il parle aussi, Patrick, de risques plus élevés de développer le diabète. Donc, on commence un petit peu à comprendre les effets à plus long terme, à moyen long terme de la COVID chez les enfants.
C'est exactement ça. On le répète, puis c'est vrai statistiquement, donc les enfants vont moins se retrouver à l'hôpital, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de conséquences. Certains enfants vont avoir des complications, vont avoir des troubles à moyen long terme, donc il faut quand même être conscient de ça. Puis juste aux États-Unis, avec la présente vague, c'est une augmentation de 240% du nombre d'enfants qui sont hospitalisés par rapport aux vagues précédentes. Donc, on voit que justement le variant Delta est plus facilement transmissible et a des conséquences plus importantes chez certains enfants. Donc, il faut être vigilant, faire du dépistage rapidement là, pour éviter que ça se propage dans ces écoles-là, dans ces groupes d'âge-là, parce que eux, 0% de la population est vaccinée. Donc, faut être attentif. Puis c'est ça, la morbidité. Là, je vais faire attention, la morbidité, ça ne veut pas dire mortalité, là. C'est vraiment, donc, morbidité, c'est les cas, les personnes qui sont infectées augmentent chez les enfants. Et encore une fois, comme tu viens de le dire, on voit des complications qui n'étaient peut-être pas celles à laquelle on s'attendait. Donc, on pensait, bon, problème respiratoire, oui, mais là, on a des problèmes inflammatoires au niveau du cœur, des problèmes possibles de diabète aussi. Donc, il y a des conséquences un petit peu plus larges là, que ce à quoi on s'attendait. Donc, il faut, encore une fois, quand on parle justement, les parents des fois sont inquiets. Bon, moi je veux pas que mon enfant porte un masque à l'école, c'est triste pour lui. Oui, c'est triste, mais en même temps, c'est peut-être mieux qu'il fasse ce sacrifice-là et qu'on prenne le temps de lui expliquer pourquoi il doit porter son masque, que de justement
voir ton enfant branché sur un respirateur à l'hôpital. Là, c'est pas mal plus triste que voir ton enfant porter un masque à l'école. Là.
Exact. Ouais. Il faut qu'il comprenne, puis il se protège lui, puis il protège aussi ses camarades de classe.
Il y en a qui craignent, c'est peut-être des légendes urbaines, mais qui se propagent beaucoup sur les médias sociaux, qu'on rende ça obligatoire, le vaccin, chez les tout-petits, là, c'est chez les moins de 12 ans. Je sais qu'en Ontario, là, si on oublie la COVID, il y a une certaine vaccination obligatoire pour aller à l'école. Penses-tu qu'on va aller jusque-là, toi, Patrick?
Bien, j'ose espérer, puis c'est un peu comme on le voit avec le passeport sanitaire. Là. Je pense qu'on va vouloir, au début du moins, l'offrir de façon volontaire. Puis encore une fois, je crois que la très grande majorité des gens, des parents, vont y aller pour les bonnes raisons, donc pour protéger leurs enfants et leurs proches. J'ose espérer qu'on aura une couverture vaccinale là, qui sera suffisante pour ne pas obliger les gens. Mais encore une fois, moi, je croyais pas qu'on se rendrait jusque-là avec le passeport vaccinal, avec les vaccinations obligatoires dans les hôpitaux et autres milieux de travail. Donc,
tout dépend de l'évolution, ben c'est ça, hein?
C'est ça, exact. Fait qu'il y a beaucoup d'inconnus pour l'instant. J'espère qu'on n'aura pas à se rendre là, mais j'espère surtout que les gens vont y aller pour les bonnes raisons.
En terminant, Patrick, une bonne nouvelle pour ceux et celles qui n'aiment pas les piqûres, puis je sais que vous êtes nombreux, là. Il y a des études qui progressent bien présentement pour des vaccins de type nasal contre la COVID, qui offriraient même deux couches de protection supplémentaires que le vaccin par injection. C'est très intéressant à première vue. Peux-tu nous donner un peu plus de détails là-dessus?
Oui. Je vais peut-être rappeler à certaines personnes, il y a déjà des vaccins qui existent là, sous forme nasale. Certains vaccins contre la grippe ont déjà été produits de cette façon-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que bon, il faut se rappeler quand on parle d'un virus comme la COVID, c'est un virus qui est transporté par l'air, donc on va l'inhaler. Donc le premier point de contact avec notre système immunitaire, c'est par les muqueuses nasales respiratoires. Donc si on administre le vaccin de cette façon-là, on va stimuler les cellules immunitaires qui sont déjà présentes dans ces muqueuses-là. Et aussi, ça c'est un petit peu plus technique, mais on va favoriser le développement d'anticorps. Là, vous savez que bon, les anticorps, on en produit avec les vaccins, mais il y a des anticorps qui sont spécifiquement retrouvés dans les muqueuses. On les appelle les immunoglobulines A, les IgA. Ça n'a rien à voir avec l'épicerie.
Ouais, c'est ça.
Donc les IgA.
C'est pas en spécial dans la circulaire cette semaine, j'ai pas vu ça.
Non, ça serait pratique, par exemple. Mais ces anticorps-là, bref, vont être produits dans les muqueuses et s'ils sont produits localement. Donc, dans une infection éventuelle, le virus serait neutralisé dès son arrivée dans les muqueuses et non pas dans le sang, comme c'est le cas, par exemple, pour les vaccins qu'on reçoit présentement. Donc, quand on se fait piquer dans le muscle, ce sont surtout des IgG qui sont produits et libérés dans le sang, mais le virus doit s'y rendre là, pour qu'on ait une vraie bonne réponse.
Oui.
Donc, avec un vaccin nasal, on stimule localement au niveau des muqueuses, les anticorps sont produits, les cellules immunitaires sont produites et activées localement. Donc, ça serait, bon, de un, moins stressant pour les gens qui n'aiment pas les piqûres, et de deux, on aurait une réponse immunitaire qui probablement serait meilleure que celle des vaccins par injection.
Moins de chances que le virus attaque le cerveau parce qu'on l'injecte directement à bonne place, là.
C'est ça. Donc, la réponse pourrait être plus efficace. Donc, là, on est encore le vaccin n'est pas approuvé. Il y a encore des études à faire, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et aussi, les chances sont que ce vaccin n'aurait pas nécessairement à être conservé à des températures extrêmement froides, donc serait peut-être plus facilement transporté et disponible. Donc, il y a plein de choses intéressantes par rapport à ces vaccins-là. Donc, on va suivre ça de près,
oui,
parce que ça pourrait changer la donne.
Il paraît même que ce serait plus efficace là, pour que quelqu'un qui reçoive ce vaccin-là ne transmette pas la maladie à d'autres personnes, la charge virale encore moins forte que quelqu'un qui a le vaccin par injection. Alors, je lisais ça puis je me disais, waouh, c'est la solution. La seule chose, c'est que c'est pas pour demain matin non plus, là.
C'est pas pour demain matin, mais encore une fois, on augmente, on va dire, notre armement, notre arsenal face à ce virus-là. Donc, éventuellement, avec les vaccins par injection, les vaccins nasaux, puis il y a des médicaments aussi, une fois qu'on est infecté, qui continuent à être développés. L'humanité, ça fait un an et demi là, qu'on fait face à ce virus-là, et on a de plus en plus d'outils pour prévenir l'infection, mais aussi pour le combattre une fois qu'on est infecté. Donc, les scientifiques font leur boulot. Moi, j'ai confiance en mes collègues scientifiques. Ça fait longtemps que je suis plus dans le domaine de la recherche, mais quand même, il y a beaucoup de choses positives qui se passent à travers le monde. Donc, faut garder espoir, mais faut continuer à garder certaines mesures. On l'a vu là avec l'Alberta et tout ça. Donc, continuons à porter le masque. On doit faire attention avec la distanciation et tout, mais éventuellement, on va prendre le dessus.
Bien, je te mandate de nous faire un suivi là-dessus quand il y aura des développements sur le vaccin de type nasal.
Absolument.
Merci beaucoup, Patrick. Encore une fois, bonne semaine.
Toujours un plaisir. Bonne semaine.
Salut. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.